Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. À quelle heure il est? 9h31 pour Culture Média. Coronavirus oblige, Mathieu Belair vous l'a dit. Culture Média adopte provisoirement un nouvel horaire de 9h30 à 11h. Et si vous êtes confiné et que vous nous écoutez pour la première fois, et encore plus si vous écoutez pour la première fois la radio un lundi matin à 9h30 au lieu d'être au travail, eh bien, bienvenue à vous. Car même coincé entre quatre murs, on a plus que jamais besoin de médias et de culture. La radio, évidemment, la télévision et la culture au sens large, les films. Ce matin, on va vous parler des meilleures des sorties VOD, les séries, les DVD, la musique, les livres, livres en papier ou les livres électroniques, et également les jeux vidéo. On va vous en faire découvrir un aujourd'hui, justement, qui a un rapport, je vous jure que c'est pas faux, avec les virus. Il y aura toujours le journal des médias de série de la carrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino et des invités à distance, mais des invités. Notre infomédia, les enfants nés par GPA ou PMA, ils ont deux pères ou juste une mère ou deux pères et une mère, on parle souvent à leur place, il y a même parfois des manifestations dans la rue contre leur modèle familial. Et si on écoutait pour une fois leur voix? C'est le parti pris d'un documentaire ce soir sur France 5. Ça s'appelle PMA-GPA, les enfants ont la parole. Sa réalisatrice sera avec nous. Ensuite, Laurent Vallée, le PDG de l'INA. L'INA qui lance une nouvelle plateforme vidéo pour voir ou revoir des séquences mythiques et pour pas cher, voire gratos. Enfin, Patrick Poivre d'Arvor pour son nouveau roman au titre qui lui va bien, L'Ambitieux, c'est chez Grasset. Sauf qu'il s'agit de politique, mais également de médias, je vous rassure. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Et je m'en réjouis. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et je vous entends parfaitement, vous êtes chez vous?
Absolument, je suis dans l'aile ouest de mon château.
D'accord, c'est l'heure du journal des médias. Cyril, qu'est-ce que vous avez au menu ce matin?
Ce matin, quelques bonnes nouvelles pour vous donner le sourire. Comment l'équipe s'adapte au coronavirus, Cantona sur un cheval et sur France 3, la fin d'un jeu d'un nouveau genre, et encore une bonne nouvelle pour profiter de votre période de confinement.
Mais Cyril, on va débuter, c'est la tradition avec les audiences. On commence par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé?
Hier soir, ils ont massivement regardé TF1 et sa série Les Bracelets Rouges, qui a fait une belle progression par rapport à la semaine dernière. Près de 5,5 millions de personnes étaient devant leur télé, devant TF1. C'est 1 million de plus que lors de la reprise de la saison la semaine dernière. Derrière, France 2 avait joué la déprogrammation avec un numéro spécial coronavirus de Vous avez la parole. Une idée payante, l'émission a été suivie par 3,5 millions de Français. Et sur la troisième marche du podium, L'amour est dans le pré sur M6 qui a été regardé par près de 2 700 000 personnes.
Et puis bien sûr Cyril, hier il y avait l'allocution d'Emmanuel Macron, le président de la République. Jeudi dernier, il y avait presque 25 millions de Français devant leur télé pour écouter Emmanuel Macron. Combien était-il hier soir à 20h?
Alors Philippe, on ne pourra avoir le total qu'à 11h avec le score des chaînes d'info en continu, mais nous savons d'ores et déjà que ce score a explosé hier soir. 32 millions de Français étaient devant leur télé pour regarder le chef de l'État. C'est un record inédit pour une allocution présidentielle. Et au passage, je me permets un petit salut amical à nos amis de Pure Média qui ont fait le décompte pour nous. Un mot aussi concernant les seules 20 heures de TF1 et France 2. Celui de Gilles Boulot a été regardé par 11 680 000 Français et ils étaient 8 700 000 devant le journal d'Anne-Sophie Lapix. De très gros scores qui vont de pair avec une forte consommation de la télévision. Hier, les Français ont passé en moyenne 4h33 devant leur poste. C'est 30% de plus que le 16 mars 2019.
Culture Média.
Maintenant, le journal des médias qui commence par une bonne nouvelle liée au coronavirus, et elles sont rares.
Et c'est une bonne nouvelle qui est venue hier d'un message de Canal+, posté sur les réseaux sociaux. Pour cause de coronavirus et de confinement, Maxime Saada, grand patron du groupe, a annoncé que Canal+ serait accessible en clair sur l'ensemble des box des opérateurs, Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom. Quant à ceux qui sont déjà abonnés, ils ne sont pas en reste. Ils auront désormais accès aux chaînes sport, cinéma et découverte. C'est la première fois de son histoire que Canal sera ainsi disponible gratuitement.
Et cette idée a fait des émules, Cyril.
Oui, en effet, Orange s'est mis au diapason et a annoncé dans la foulée que le groupe de téléphonie offrait l'accès à son bouquet OCS et à 5 chaînes jeunesse à l'ensemble de ses clients Télé Orange installés en métropole.
Alors Cyril, on le sait, avec le coronavirus, toutes les compétitions sportives sont mises à l'arrêt. Évidemment, une question qu'on se pose, il y en a à qui ça pose pas mal de problèmes, c'est un euphémisme, ce sont les médias sportifs.
Et forcément, en France, dans ce cas, on pense à nos confrères de L'Équipe. L'Équipe, c'est non seulement un journal, un site et une chaîne qui ne parle que de sport. Alors, pour parler sport quand il n'y a plus de sport, comment on fait ? Oui, comment on fait ? Eh bien, j'ai posé la question à Jérôme Cazadieux, le directeur de la rédaction du Quotidien et de L'Équipe.fr. Il nous explique comment on remplit un journal de sport quand il n'y a plus de sport à mettre dedans.
Il n'y a plus de compétition sportive, mais il y a encore des sportifs, il y a encore des institutions, il y a encore une actualité aussi qui est liée au coronavirus. Sur évidemment la tenue des compétitions, leur report, leur suspension. Donc on va continuer à informer nos lecteurs pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, puisque on va vraiment développer tous ces sujets-là. Et à côté de ça, on a lancé un certain nombre de sujets, plus magasinés, des enquêtes, aussi des séries. Bah, par exemple, est-ce qu'on va pas raconter quand même Milan-San Remo qui aurait dû se tenir dans deux semaines, malgré tout? Voilà, vous n'avez pas Milan-San Remo cette année, mais on va essayer de vous trouver un contenu autour de Milan-San Remo. La même chose un peu sur toutes les compétitions qui ont été annulées, faire des séries. Bien sûr, on va aussi s'intéresser à la vie des sportifs.
On le voit, quelques idées sont déjà dans les cartons, et si le sport s'est arrêté, les sportifs et les clubs sont comme les autres salariés et les autres entreprises. Elles sont affectées par les nouvelles dispositions et L'Équipe entend suivre leur quotidien chamboulé.
Malheureusement, il y a des clubs qui vont être exposés très fortement économiquement aux conséquences du coronavirus. Donc on va s'intéresser à des clubs dans des sports importants qui vont être en difficulté. On va essayer d'avoir également tous les sportifs qui ont pu être touchés par le coronavirus pour voir ce que ça a pu impliquer. On a pas mal de sportifs en ce moment qui font des dons pour du personnel hospitalier, pour des organisations qui viennent en aide à ceux qui luttent contre le coronavirus. Donc ça peut être également des sujets qu'on va monter. Donc pour le moment, on a un certain nombre de choses qui sont lancées, donc on n'est pas très inquiet sur notre capacité à faire un journal, même un journal dégradé, dans les 15 jours qui viennent. Et après, ce sera peut-être une pagination qui sera un peu plus resserrée.
Un journal dégradé peut-être d'ici quelques semaines, mais un journal toujours bien présent, Cyril. Mais L'Équipe doit également anticiper d'autres mauvaises nouvelles.
Et cette mauvaise nouvelle devrait être annoncée aujourd'hui. C'est le report du championnat d'Europe de football qui doit se jouer cet été. Jérôme Cazadieux, le directeur de la rédaction de L'Équipe, nous explique comment ce report est anticipé.
Ce report ne va pas entraîner l'annulation du football pendant cette durée-là. A priori, il serait reporté pour permettre d'abord aux championnats nationaux de se terminer. Il y a la volonté de l'UEFA quand même d'essayer d'organiser, d'amener à son terme les compétitions européennes, Ligue des Champions et Ligue Europa. Il y a plusieurs formats qui sont possibles. Donc c'est vraiment de ça dont on va parler. Après, oui, l'Euro va être décalé, mais il y aura, je pense, de la part à la fois des organisations sportives, mais également du monde, des gens en règle générale, une volonté de reprendre le cours de leur vie. Et donc on s'attend à avoir quand même une actualité qui sera peut-être moins cocardière parce qu'on n'aura pas l'euro à ce moment-là, mais qui sera tout aussi intéressante pour nos lecteurs.
Et Cyril, il y a donc le quotidien L'Équipe qui est touché, mais également la chaîne L'Équipe.
Oui, après Jérôme Cazadieux, cette fois, c'est Jérôme Saporito, le patron de la chaîne L'Équipe, qui nous raconte comment il espère faire vivre son antenne sans sa principale matière.
Ce sera l'occasion avant tout d'aller fouiller dans ce stock d'événements qu'on a pu diffuser à travers des thématiques. Il va y avoir un week-end des champions autour des grands champions qu'on a pu diffuser et qui ont gagné des grands championnats, des grands matchs, des grandes compétitions. On aura un week-end spécial sur les championnats du monde de biathlon à Oslo en 2016 qui a vu une rafale de médailles françaises. On va revivre les grands moments et tout le Giro 2017, puis le Giro 2018. Et puis après, on aura aussi en prime beaucoup de matchs de légende, à démarrer par les matchs de Coupe du Monde 2018, avec les quatre matchs fantastiques de France-Argentine, France-Uruguay, France-Belgique et France-Croatie. On diffuse aussi le catch pour l'instant continue aux États-Unis. Puis après, les émissions, on va voir, on va se laisser porter par l'actualité, voir ce qu'il en est au jour le jour, pour voir si on les continue et à quelle fréquence.
Du fond de catalogue, des grands moments et, comme pour tout le monde, forcément, voir au jour le jour comment la situation évolue.
De son côté, Cyril Hanouna a décidé de prendre une décision radicale.
Oui, l'animateur a annoncé qu'il renonçait à présenter ses émissions en plateau, mais pas qu'il renonce, ça touche pas à mon poste. Sur Twitter, Cyril Hanouna annonce qu'il sera en direct de chez lui. Et oui, comme un peu comme tout le monde, en fait, comme moi en ce moment. Ouais. Et oui, Cyril Hanouna passe en mode de confinement. Il dit avoir préparé une installation chez lui pour assurer son émission quotidienne et discuter avec ses fanzous. Rendez-vous est donné à partir de 17h45.
Mais Cyril, est-ce que l'autre Cyril aura des invités chez lui, ou est-ce qu'il fera l'émission tout seul de son salon, ou est-ce qu'il y aura des invités qui viendront le voir ?
Il n'a pas encore donné le détail, mais normalement, les rassemblements amicaux sont interdits.
Ah oui, c'est vrai. Cyril, un téléfilm nous recommandé de votre part pour ce soir. Téléfilm avec un barbu au sale caractère.
Un barbu qui s'appelle Thomas Bareski, alias le Voyageur. C'est d'ailleurs le titre de ce téléfilm que France 3 nous propose ce soir, avec dans le rôle principal, vous l'avez dit Philippe, un barbu au caractère bien trempé. C'est Eric Cantona. Cantona reprend le costume de Thomas Bareski qu'il avait déjà endossé l'an dernier avec succès. 5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le suivre dans son rôle d'enquêteur qui se balade à cheval. Louise Bernard a donc chevauché son poney Shetland pour aller à la rencontre du comédien et lui demander pourquoi il avait accepté de reprendre ce rôle de Bareski.
J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le travail qu'on a fait tous ensemble et repartir dans de nouvelles aventures comme ça, c'était un vrai plaisir. Des rôles de policiers, il y en a beaucoup et je trouve que celui-là est très particulier. C'est vraiment ce qui m'a plu. Au-delà du fait que ce soit un enquêteur, je crois qu'en tous les cas, ça serait un peu le but ultime de plein de gens qui n'ont pas la force justement de quitter tout pour partir comme ça. Ben lui, il a cette force-là. C'est quelqu'un qui a ce don, c'est quelqu'un qui a cet instinct aussi. Mais en plus, il est complètement libre de faire ce qu'il veut dans sa vie de tous les jours et dans sa façon de mener les enquêtes.
Un rôle qui semble écrit pour Eric Cantona, au point même que non seulement ce Thomas Bareski a clairement des airs de Canto, qu'on connaît, mais en plus, cet enquêteur va croiser au cours de cet épisode une certaine Romane Diaz. Et devinez qui joue Romane Diaz, c'est la comédienne Rachida Brakni, la femme d'Eric Cantona à la ville. Louise Bernard a demandé à la comédienne si ça lui avait plu de jouer en couple.
Malheureusement, on n'a pas l'occasion de travailler si souvent que ça ensemble. Donc moi, j'étais très, 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 très heureuse de le retrouver, mais très, très intimidée, bizarrement. Comme vous savez, un premier rendez-vous amoureux, comme disent les jeunes, un crush, mais vous ne le connaissez pas encore. Et donc, j'avais vraiment cette sensation-là le premier jour de tournage. Mais travailler avec Eric, c'est toujours un bonheur, parce que c'est quelqu'un de très exigeant. Et ça, je trouve que c'est une qualité extraordinaire. C'est quelqu'un qui a l'écoute et qui veut toujours améliorer, s'améliorer et qui est très généreux en tant que partenaire. Lui fait partie des acteurs qui vous rendent meilleur.
Une jolie manière de parler de son partenaire, le Voyageur, c'est ce soir sur France 3 à 21h05.
Et puis Cyril, vous vouliez terminer ce journal comme vous l'aviez commencé, par une initiative positive liée au coronavirus.
Après Canal+ et Orange qui ouvrent leurs antennes, c'est le site de vidéos pornographiques Jackie et Michel qui a décidé de donner un coup de main à ses utilisateurs. Et oui, Philippe, une grande nouvelle. Depuis hier, la plateforme française a décidé de mettre en ligne gratuitement plusieurs films au cours des prochaines semaines. Une manière comme une autre de se détendre durant cette période de confinement.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À suivre, je ne sais pas ce qu'il y a à suivre, c'est l'infomédia du jour. On va parler de la PMA et de la GPA, les enfants ont la parole. C'est un documentaire qui passe ce soir sur France 5. Nous serons avec sa réalisatrice.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Ils ont deux pères ou juste une mère, ou alors deux pères et une mère. On parle souvent à leur place. Il y a parfois des manifestations dans la rue contre leur modèle de famille. Et si on écoutait leur voix? C'est le parti pris du documentaire réalisé par Laure Grandjean. Documentaire diffusé ce soir sur France 5. Je vous donne le titre PMA GPA. Les enfants ont la parole. Un film qui donne donc la parole à 7 enfants nés de PMA, la procréation médicalement assistée, et de GPA, gestation pour autrui. Ils ont entre 8 et 20 ans. Ils vivent en France et en Belgique. Bonjour Laure Grandjean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ces temps un petit peu troublés de coronavirus. Au début de votre documentaire, vous dites que ces enfants ont décidé de raconter leur histoire. Comment exactement? Comment avez-vous recueilli ces témoignages? Est-ce que vous avez lancé par exemple un appel à témoins?
Eh bien, en fait, j'ai lancé un appel à témoins, mais via les associations qui étaient déjà engagées avec ces familles-là. Mmh. Ensuite, j'en ai évidemment parlé à tous mes contacts personnels. J'ai vraiment utilisé beaucoup le réseau associatif. Mmh. Et puis après, des rencontres, le hasard. Mmh. Par exemple, moi, l'idée du film, j'ai eu avec Louane, ouais, qui est dans le film, qui a 11 ans. Ouais. Et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire ce film, parce que je l'ai rencontrée, par ouais, hasard. Et le jour où je l'ai vue, elle m'a regardée, elle m'a dit « Laure, tu sais que moi, j'ai 3 parents homo. » Ouais. Et là, je me suis dit « Mais comment c'est possible, en fait, techniquement ?» Et elle m'a parlé, elle m'a raconté son histoire. Elle a répondu à toutes mes questions en me regardant droit dans les yeux, sans gêne, avec beaucoup de maturité. Et ouais, c'est là où je me suis dit « Il faut faire ce film, en fait.
Mmh, » ouais. Comment vous avez choisi les profils? Vous vouliez tous les âges, toutes les situations? Ou est-ce que vous avez pris ce que vous avez trouvé, si j'ose dire un peu grossièrement, ceux et celles qui ont bien voulu vous parler?
Non, en fait, ce que je m'étais dit déjà, c'est que je voulais des enfants qui avaient au moins plus de 8 ans. Parce ouais. qu'avant, je pensais que la discussion allait être difficile. Et comme je voulais absolument faire un film sans commentaire, mmh. qui repose que sur la parole des enfants, il fallait vraiment que j'ai une parole déjà un peu construite. Mmh. Voilà. Et après, ça a été au feeling. Quand j'ai eu les enfants au téléphone, je suis rencontrée, je suis allée les filmer.
Ils habitent en France et en Belgique. Ces modèles familiaux sont plus fréquents en Belgique que chez nous ?
Oui. Alors, notamment, par exemple, pour la GPA.
Ouais.
Puisque là-bas, il y a un flou juridique, c'est-à-dire que la GPA n'est pas vraiment légalisée, mais elle n'est pas vraiment interdite.
D'accord.
Donc, elle peut être faite. Et donc, oui, il y a plus. J'ai pu trouver ce profil des GPA dans un couple hétéro en Belgique.
Parmi les 7 enfants qui témoignent, il y a Kolia, c'est un garçon, il a 8 ans. Il est né d'une GPA réalisée en Russie et il a 2 papas.
C'est pas très grave au moins de ne pas avoir un papa ou une maman. Si t'as le papa, tu seras toujours content. Si t'as le maman, tu seras toujours content. Si t'as un papa ou une maman, tu seras quand même toujours content. Il y aura pas de différence.
Parce que c'est quoi ce qui compte finalement ?
Que tu profites de l'amour que tes parents te donnent. Parce que si t'avais un papa et une maman, ce serait 2 amours. Et deux papas et deux papas, c'est pareil. C'est aussi 2 amours.
Tout est dit en 40 secondes. C'est une des rares fois, je précise, où l'on entend votre voix. Sinon, c'est sans commentaire. Il y a seulement les enfants qui parlent. Vous avez dû les guider, les enfants. Vous leur donnez la parole, évidemment. Mais dans quelle mesure c'est vous qui les drivez? Ou alors, dans quelle mesure vous avez eu ou pas l'impression d'entendre leurs parents à travers eux?
Non, je ne les ai vraiment pas drivés, en fait. J'avais mes questions. C'est une grosse interview que j'ai faite avec les enfants. Mmh. Les parents n'étaient pas dans la pièce. Et je ne leur ai pas demandé, c'est eux naturellement qui m'ont laissé avec les enfants. Les parents n'ont jamais demandé à lire les questions que j'avais posées aux enfants. Mmh. Et en fait, moi, je suis partie avec cette idée, je leur pose la question. S'ils ont la réponse, c'est super. Et s'ils n'ont pas la réponse, je passe à une autre question. Parce que justement, je n'avais pas envie, moi, de leur donner des réponses ou d'intervertir, de changer ce qu'eux pensaient. Donc il y a parfois, moi j'étais frustrée en tant que réalisatrice parce que le petit Kolia par exemple qui a 8 ans, il n'arrivait pas à m'expliquer les choses, et lui c'était très dur en fait, parce que même si ça ne se voit pas et qu'au final c'est lui qui dit les choses essentielles, il y avait une petite frustration de ma part, mais vraiment avec Jean-Thomas Secaldi, mon co-auteur, et Fanny Boutillon, ma monteuse, on a vraiment fait attention à transmettre la parole brute de l'enfant et à ne pas nous, adultes, y mettre ce qu'on avait envie de dire nous.
D'accord.
Donc vous verrez dans le film, il y a des regards, il y a des silences, il y a des longueurs, il y a des fautes de français, parce que tout ça, on a volontairement laissé, parce qu'on voulait que les gens voient ce que les enfants ont vraiment à dire et pas nous manipuler quelque chose en fait.
Vous parliez de Louane tout à l'heure, on va l'entendre, on va marquer une toute petite pause et on va l'entendre. Vous restez avec nous évidemment, Laure Grandjean, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
PMA, GPA, les enfants ont la parole. C'est un doc qui passe ce soir sur France 5 à 21h. Documentaire réalisé par Laure Grandjean qui est avec nous. On en parlait tout à l'heure. Parmi les enfants, il y a Louane. C'est elle qui vous a donné l'envie de faire ce documentaire. Elle a 11 ans. Elle a 2 mères qui ont fait appel à un homme rencontré sur Internet. Louane est née d'une insémination artisanale à domicile. Et depuis, ses 2 mamans sont séparées. Donc, elle partage sa vie entre ses 3 parents. On l'écoute.
En fait, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, ça doit être super cool, tu dois avoir du coup, plein de cadeaux à Noël, plein de cadeaux aux anniversaires. » Et il y a aussi des personnes qui me demandent « Est-ce que c'est un inconvénient ?» Et je dis « Bah, comme toute famille, il y a des inconvénients et des inconvénients. » Les inconvénients, c'est surtout que c'est vraiment le système d'éducation différente. C'est un peu dur de s'adapter à chaque fois. Que, par exemple, du jour au lendemain, il y a une règle qui a changé. C'est le truc qui change dans chaque maison. Il y en a une où je l'ai tout le temps, il y en a une où je l'ai qu'une heure, et il y en a un où je l'ai pas du tout. C'est vraiment ça qui m'a le plus perturbée, que les autres enfants ne comprennent pas vraiment. Mon frère, par exemple, il n'a que deux éducations différentes. Ça doit être un peu plus simple que moi qui en ai 3.
À part le fait qu'elle écrit parent 1, parent 2, parent 3 sur ses papiers scolaires, on a l'impression que Louane, elle raconte simplement la vie d'enfant de parents divorcés avec une personne de plus pour la garde alternée, c'est un peu ça ?
Exactement, c'est exactement ça. Ah. Et, oui.
Allez-y, allez-y.
Non, je trouve que ce qui est marrant quand on l'entend parler, c'est que finalement, on se rend compte que ces trois parents on lui apporte énormément de choses différentes sur le point de vue culturel, sur l'éducation, sur la façon de voir la vie, en fait. Et je pense que Louane, elle est aussi mature grâce à ça, en fait. Je pense qu'il lui apporte là, on parlait politique à cause des municipales, et elle me disait, voilà, mes trois parents, ils ont trois avis totalement différents. Et du coup, moi, quand je vais voir un autre parent, bah, je répète avec mes mots ce que ma première mère m'a dit, mais en fait, mon père, il n'est pas du tout d'accord. Donc, il me dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et du coup, après, je me dis, là, elle est un peu perdue. Elle me dit, du coup, je ne sais pas quoi penser en politique. Donc, elle est un peu perdue. Mais en fait, je me dis, là, c'est une richesse, parce que quand tu vas grandir, elle va forger sa propre opinion. Et ça, c'est génial de pouvoir avoir tous ces points de vue, en fait.
Laure Grandjean, dans votre documentaire, on voit que tout n'est pas toujours si simple. Exemple avec Tom, il a 20 ans, il a deux mères et un père adoptif qui a parfois souffert de son schéma familial.
Autant à 8-10 ans, j'avais pas trop de problèmes. C'est un peu plus tard, à l'adolescence. Je n'aimais pas trop en parler parce que j'avais peur de la réaction des autres aussi, sûrement. J'ai eu à faire des propos homophobes quand j'étais adolescent. On m'a insulté personnellement de PD et de selfies d'homosexuel. Ce qui n'est pas une insulte, mais bon. Enfin, en tout cas, pas à mes yeux, et je suis très fier d'être fils d'homosexuel. Je l'avais mal vécu parce qu'on insultait mes parents. Ça m'a beaucoup plus perturbé, surtout à mes 16-17 ans, par la dureté des mots et par la diversité des personnes qui peuvent l'utiliser, qui est bien plus importante que ce qu'on pourrait penser.
Oui, ce qu'on entend quand on entend Tom et qu'on entend Louane, on a l'impression que les problèmes arrivent plutôt à l'adolescence, non ?
Exactement, c'est exactement ça. Tant qu'ils sont jeunes, dans le cocon familial, et puis les enfants, on sait qu'ils s'en fichent un peu de la sexualité des parents ou de la façon dont ils ont été conçus. Donc jusqu'à là, ça va. Et après, à l'adolescence, c'est là où en général il y a une rupture et où ils commencent à souffrir du regard des autres et notamment du regard des adultes, en fait.
Et ça,
ils ont du mal à accepter ça.
Et ça, vous ne l'avez pas coupé dans le documentaire, vous avez montré les deux facettes. On le voit avec Tom qui a 20 ans, mais également avec Mathis qui a 18 ans, ce sont eux qui ont les propos les plus nuancés. Et Mathis a appris qu'il y a un an et demi, il y a seulement un an et demi qu'il a été conçu grâce à un don de sperme anonyme. Sa sœur n'a d'ailleurs pas le même donneur que lui. Il a décidé de faire des tests ADN pour en savoir plus sur son histoire. Et il est favorable à la levée de l'anonymat des donneurs. Et dans les familles que vous avez rencontrées, quelle est la tendance ? Est-ce qu'ils sont plutôt pour l'anonymat ou pour la levée de l'anonymat ?
Bah en fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans ce film. C'est que finalement, les avis de toutes ces familles sont souvent différents et très personnels en fonction de l'âge des enfants, en fonction de la communication dans les familles, en fonction de leur histoire personnelle. Donc en fait, vous verrez dans le film, il y en a qui sont pour la levée d'anonymat, notamment parce qu'ils n'ont pas accès au dossier médical de leur donneur. Du coup, il y a 50% de leur patrimoine génétique qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça, quand on grandit et qu'on commence à avoir des rendez-vous médicaux, à Mathis m'expliquer, il devait retirer ses dents de sagesse, par exemple. Donc il a eu rendez-vous avec l'anesthésiste, ça c'est très concret. Et il s'est rendu compte qu'il ne savait pas répondre aux questions de l'anesthésiste. Et il a paniqué, il s'est dit, mince, si ça se trouve, je vais avoir un problème au moment de l'opération parce que je ne connais pas les antécédents de mon donneur. Donc ça, c'est stressant pour les plus grands. Ça, Tom, Mathis, ils en parlent. Et ça, pour cette raison, ils aimeraient connaître, au moins avoir quelques informations. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas connaître leur donneur pour trouver un père.
D'accord.
Ça, c'est le point commun à tous ces enfants. Les plus jeunes, c'est de la curiosité. Ils aimeraient voir à quoi ils ressemblent, s'ils ont des traits de ressemblance physique avec lui. C'est finalement plus ça, en fait.
Voilà, et puis d'un mot, vous posez aux plus âgés la question de leur sexualité. Même à Louane d'ailleurs, 11 ans, il y a encore des personnes qui pensent que des enfants de personnes homosexuelles, ça donne automatiquement des enfants homosexuels.
Et oui, pareil, que des gens pensent encore ça. Et là, là encore une fois, j'ai la preuve que la sexualité des parents n'influence pas forcément la sexualité de vos enfants.
Ouais,
ça paraît logique quand je le dis, en fait, mais...
Ça va toujours mieux en le disant.
Personnel.
Merci beaucoup, Laure Grandjean. Je rappelle, PMA, GPA, les enfants ont la parole. C'est un documentaire à voir ce soir. C'est à 20h50 sur France 5. Ça commence plus tôt que les autres chaînes. C'est 20h50 et non pas 21h et des poussières. Merci, Laure Grandjean, d'avoir été avec
Merci
nous ce matin
vous.
Sur Europe 1. Par téléphone, évidemment, coronavirus oblige. Culture Média, ça continue. Il faut que je trouve ma feuille qui veut dire ce qui va se passer. Il y aura le rappel des titres. Et puis, on va parler culture avec Laurent Vallée, le directeur général de l'INA pour Madeleine, la nouvelle offre de streaming de l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est le nom complet de l'INA. PPDA, Patrick Poivre-d'Arvor, je vous donne son nom, pour son livre L'Ambitieux, l'histoire d'un jeune député qui veut parvenir au sommet de l'État. Ça ressemble à beaucoup de gens. Et puis, dans Les Indispensables, Mathieu Charrier, il va nous donner le meilleur des films à rattraper en VOD. Oui, les films qu'on peut voir de chez soi. Le cinéma ne s'arrête pas à la porte des cinémas. Et puis Clément Le Saffre va nous parler d'un jeu vidéo, je vous jure que je n'invente rien, un jeu vidéo qui simule une épidémie.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la suite de l'émission avec Laurent Vallée, le directeur général de l'INA. Il nous présentera Madeleine, la nouvelle offre de streaming de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et ensuite, nous recevrons Patrick Poivre d'Arvor pour son nouveau roman. Ça s'appelle L'Ambitieux. C'est le deuxième d'une duologie. C'est pas une trilogie. Et puis, dans Les Indispensables, les meilleurs films à rattraper en VOD et un jeu vidéo qui simule la propagation d'une épidémie.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Laurent. Laurent Vallée.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. L'INA qui lance un nouveau service, une nouveauté. J'aime beaucoup le titre du Parisien de mardi. L'INA fait du neuf avec du vieux. Il ne se moque même pas. Vous lancez Madeleine, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, sauf que ça s'écrit Madeleine, M-A-D-E-L-E-N, en phonétique anglicisée. De quoi s'agit-il ?
Anglicisé ou suédisé,
parce oui, que suédisé.
C'est comme, ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit Madeleine en suédois.
Voilà, mais je suis très mauvais en suédois. Allez-y, de quoi s'agit-il ?
Sauf pour Madeleine. Eh bien, Madeleine, c'est notre nouvelle offre de SVOD, de streaming en ligne, ouais. Qui rassemble plus de 13 000 programmes qui ont été sélectionnés avec l'expertise et la passion des équipes de l'INA. 4 000 épisodes de séries, 1000 documentaires, 2000 émissions cultes, des centaines de concerts et de pièces de théâtre avec une programmation, une éditorialisation qui évolueront chaque jour avec des propositions thématiques, des cartes blanches à des personnalités et puis bien sûr une expérience utilisateur totalement revue puisque l'INA en 2015 avait été le premier acteur de l'audiovisuel public a lancé son offre de SVOD, INA Premium, et que nous avons complètement repensé aujourd'hui, y compris évidemment pour offrir aux utilisateurs une expérience au niveau des meilleurs standards nationaux et internationaux.
Alors avant de parler de l'expérience utilisateur, on parlait du fond, j'ai regardé un petit peu, il y aura des feuilletons mythiques, documentaires, comme par exemple Paris à tout prix, magnifique documentaire qu'on peut revoir maintenant. C'était en 2001, ça racontait la bataille des municipales à Paris entre Jean Tiberi, Bertrand Delanoë et Philippe Séguin, peut-être l'un des meilleurs documentaires politiques sur le sujet, vous confirmez ?
Ah bah, où on comprend cette campagne extraordinaire, où on voit qu'en fait, Philippe Séguin n'en a pas vraiment eu envie. Enfin, c'est voilà, des coulisses absolument incroyables et effectivement un documentaire qui résonne avec la campagne un peu bizarre, suspendue de l'entre-deux-tours d'aujourd'hui.
Voilà, et on voit les coups de poignard dans le dos qui sont légion. Il y a également
des halbardes,
des halbardes. Il y a également des émissions cultes comme Droit de réponse, une émission présentée, je dis ça pour les plus jeunes, par Michel Pollack. Alors on a choisi un extrait, c'était pendant l'émission consacrée à la mort de Charlie Hebdo, le journal, oui, parce que Charlie Hebdo a eu plusieurs vies. Parmi les invités, il y a des journalistes, il y a un casting absolument dingue, il y a Gainsbourg qui est là, Gainsbourg, vous vous rendez compte, il y a Renaud, il y a également des lycéens, il y a toute l'équipe de Charlie Hebdo, il y a Cabu, il y a Volinsky, et évidemment, le professeur Choron.
Il y aurait quand même un coup terrible.
Est-ce que je peux répondre à ces défections ?
Bon, allez, Choron, un mot.
Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites ?
Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire.
Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ?
Ben, faut que
ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux.
Alors, il faut
des
inviter trous
du
quoi
cul. Des cons.
Merci, sûrement.
Bon, alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi.
Bon,
Pollack, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre dire, là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère. C'est les mots de ma grand-mère. C'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi
bon,
du mot.
Ça suffit, Choron.
Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule.
Merci, Choron.
Merci, Choron, on ne s'en lasse pas.
Ah bah écoutez, vous m'offrez une très belle transition.
Allez-y.
Avec tous les contenus qu'on va mettre à disposition sur Madeleine pour tous les lycéens qui sont confinés aujourd'hui.
Ah oui, mince. J'ai pas pensé aux lycéens qui nous écoutaient.
Voilà, ils sont encore plus nombreux que d'habitude. Ouais. Et comme ils doivent préparer leur bac, par exemple le bac de français ou Don Juan est au programme, eh ben, ils trouveront sur Madeleine un très beau film de Marcel Bruvac, Don Juan ou le festin de Pierre. Ouais. Et je pense que ce ne seront désormais et définitivement pas les âmes que le professeur Choron dans son, ouais. Alors, son emportement. Voilà.
Ça donne vraiment envie de voir toute l'émission. Elle était d'ailleurs repassée dans l'émission que présente Patrick Cohen sur France 5, Rembobina. Excellente émission. Tout n'est pas évidemment de cette qualité, puisque vous ne fabriquez pas toujours les choses. Là vous servez de ce qui a existé. Dans le dossier de présentation, je vais vous demander comment vous faites le tri. Il y a une phrase qui a vraiment attiré mon attention. Tous les choix de programmation, écrivez-vous, sont faits par des femmes et des hommes passionnés, des documentalistes, des journalistes, des producteurs, pas par des algorithmes. Ça change quoi ?
Eh bien, ça change tout. Ça change tout parce qu'une de nos richesses à Guina, c'est qu'on a non seulement toutes ces archives de la radio, de la télévision, mais qu'on a toute une équipe, on a 160 documentalistes qui les ont regardés, qui les ont indexés et qui savent. Ouais. Mieux que personne, avec l'aide ensuite de nos journalistes, de nos rédacteurs multimédia.
Mais je vous interromps, vous dites mieux que personne, mais évidemment ça fait référence à Netflix et son fameux algorithme. Mais pourquoi vous ne voulez pas de ce modèle ? Parce que justement, ce qui a fait le succès de Netflix, c'était son algorithme qui a totalement révolutionné l'offre vidéo et qui a apporté aux gens, en ayant vu un documentaire ou un feuilleton, voir le même dans le même style et l'apprécier directement.
Eh bien, bien sûr, dans nos outils de recommandation sur Madeleine, on tient compte de ce que vous aimez, de ce que vous avez regardé, mais je crois aussi que le propre d'une éditorialisation, d'une recommandation de service public, c'est de vous aider aussi à découvrir, à faire des pas de côté, ouais. Hein, et à découvrir des contenus, des fictions, des documentaires, des émissions qui peut-être ne sont pas exactement la synthèse de tout ce que vous avez déjà regardé, mais qui vous feront découvrir de nouveaux programmes qui, au fond, enrichiront votre expérience. Et donc, évidemment, loin de moi l'idée de décrier les algorithmes des grandes plateformes internationales, mais je crois que la particularité d'une autre, c'est effectivement d'essayer d'éveiller toujours la curiosité en proposant, en formulant des propositions qui ne sont pas juste, au fond, le résumé de tout ce qui vous a déjà intéressé. Et
compris.
Ça, c'est grâce à ces 150 personnes qui sont derrière Madeleine.
150 personnes. Il y a justement quelque chose en parlant de proposition dont on n'a pas parlé, Laurent Vallée, c'est le prix, l'argent, le nerf de la guerre. Juste après ça, on marque une pause et on vous retrouve.
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Merci de nous retrouver. Nous sommes en direct à distance avec nos invités. Mais l'émission se fait. C'est une expérience un peu particulière pour moi puisque je vous dis tout. Je suis tout seul en studio rue des Cévennes avec notre invité. C'est Laurent Vallée. Vous êtes le PDG de l'INA et vous lancez une nouvelle plateforme, votre nouvelle plateforme. Elle s'appelle Madeleine. Vous vous posez en complément de Netflix ou des plateformes comme OCS. Mais on n'a pas encore parlé du prix. Combien ça coûte? Combien ça va coûter, Madeleine?
Eh bien, ça va coûter 2,99 par mois, un prix de service public. Et je suis très heureux de vous annoncer qu'évidemment, dans les circonstances présentes, l'offre sera gratuite et disponible gratuitement pour tous les publics pendant 3 mois, à partir de demain.
Formidable. Vous avez vu qu'à l'occasion du coronavirus et de la crise du coronavirus, Canal+ passe également en gratuit. Vous avez vu ça ?
Canal+, OCS, voilà, et nos amis de Magellan, enfin bref, je crois que tout le monde essaye d'aider cette période difficile, ouais. Et nous y apporterons notre contribution.
Et comme le disait Cyril Lacarrière dans son journal des médias, le site pornographique Jackie et Michel passe également en gratuit. J'imagine que ça ne vous a pas échappé.
Je m'en réjouis.
Il y a des interviews, des reportages qu'on peut trouver sur Madeleine avec un moment très très fort pour rendre compte, pour donner aux auditeurs et auditrices la saveur, le sel de ce qu'on peut trouver chez vous. C'est une interview de Simone Signaret, immense comédienne qui à l'époque était star, qui a été tour à tour l'épouse de Marc Allégret et d'Yves Montand. Un journaliste l'interroge au sujet de son maquillage, ou plutôt de son absence de maquillage. Écoutez Simone Signaret, document d'époque.
Il y a des gens là qui nous regardent.
Oui.
Ça te gêne, ça ?
Non, je les vois pas parce que c'est. Ils croient que je suis en train de jouer la comédie, alors je les vois pas.
Mais ils voient bien que tu vas te maquiller.
Je suis beaucoup plus maquillée puisque je me maquille pas du tout dans la vie.
Pourquoi ? Pour te reposer ?
Non, parce que. En d'abord, parce que quand j'étais très jeune, je me maquillais beaucoup et puis mon mari m'a fait me débarbouiller et je me suis plus maquillée du tout. Ça fait 15 ans que je me maquille plus.
Au début, tu faisais des scènes parce qu'il trouvait que tu te maquillais.
Je n'ai pas fait de scène, il m'a dit qu'il faut débarbouiller, alors je me suis débarbouillée.
Tu fais toujours ce qu'il dit ?
Je fais plutôt ce qu'il dit, oui, mais j'aime bien.
Tu n'es pas une femme libre, alors ?
Je suis libre exactement de la façon dont je le veux. Aussi peu et autant que je veux.
le féminisme des balbutiants à l'époque, mais il existait quand même. C'était qui son mari de l'époque? C'était Yves Allégret ou Yves Montand?
Ah, c'est déjà Yves Montand, et c'est William Klein qui la filme dans une incroyable émission d'Hélène Victor. Donc décidément, les femmes seront à l'honneur au moment de demain, au lancement de Madeleine, avec cette très belle émission, et puis avec aussi plein de très belles fictions avec Delphine Seyrig, des interviews d'Agnès Varda. Ouais. Je crois que c'était votre extrait est très bien choisi, parce qu'il illustre une des thématiques qui seront à l'honneur au lancement de Madeleine demain vers 18h.
Ouais. Il y a aussi une autre thématique, il y a du boucan. C'est punk, on s'en rend pas compte, mais c'est punk, Lina. Faites du bruit, vraiment, il y a de la musique, il y a beaucoup de concerts, on pouvait en choisir 1000, on a choisi les Clash sur la scène du Palace.
Ah,
on est
le
à Paris.
Palace, 80.
Ouais, 79 peut-être. Ça dépend de comment c'est répertorié. En tout cas, c'est London Calling. On y va. Voilà, les voix, c'est le mixage d'époque. Hein. Parfois, ils chantent un petit peu. C'est le mixage d'époque. Et Joe Strummer. Voilà. Quoi d'autre comme concert? Ouais, c'est Joe Strummer au chant. Et Paul Simonon à la basse. Et Mick Jones à la guitare. Voilà, je vous donne les noms. Et Topper Hedon, je donne tout ça de mémoire. Ouais, voilà. Je connais ça. Quoi d'autre comme concert? Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme musique?
Ah bah écoutez, on peut trouver par exemple un incroyable concert d'Aretha Franklin à l'Olympia en 71. On peut trouver que vous dire d'autre.
Allez, vous savez quoi, j'ai tellement de questions, je vais vous poser une question sur les séries et les fictions. Vous mettez en avant les Brigades du Tigre, Maigret, Vidocq, Fantomas. Ah, mais franchement, est-ce que vous n'êtes pas un peu à contre-temps? C'est justement contre ces séries à la papa que s'est construit le succès de Netflix ou de HBO.
Ah bah alors moi je partage pas du tout votre avis.
Allez-y.
Moi je pense qu'au fond on croit que c'est Netflix et HBO qui a inventé la série, tout ce caractère feuilletonnant, mais je pense que l'ORTF des grandes heures a inventé quelque chose d'absolument incroyable dans ce concept de série, ce concept de d'écriture feuilletonnante. Et évidemment tout ça est une histoire, toujours, j'y reviens, d'éditorialisation, c'est-à-dire que lorsque vous redécouvrirez les épisodes des Rois Maudits, eh ben vous verrez qu'au fond, les Rois Maudits, alors bon, c'est filmé un peu différemment, c'est vrai, mais c'est un script encore plus cruel que Game of Thrones, encore plus cruel.
Et puisque vous je me permets de vous interrompre, puisque vous citez Game of Thrones, le créateur de Game of Thrones reconnaît que son influence, c'était les Rois Maudits. Alors, ça démarre, Madeleine, ça va démarrer demain. Les abonnés qui étaient abonnés à l'offre INA Premium, vous en allez en faire quoi? Ils restent abonnés à Madeleine?
Ah non, oui, ils sont immédiatement abonnés à Madeleine,
ouais.
Et ils bénéficieront évidemment de la nouvelle offre.
Ouais.
Et puis j'espère tous les nouveaux abonnés qui vont pouvoir le découvrir, d'autant plus largement que pendant 3 mois, chacun pourra y accéder de façon absolument gratuite et profiter de cette offre de services. Public, ouais. Patrimonial,
L'objectif, c'est de passer à 50 000 abonnés. Lina, par ailleurs, vous poursuivez toujours évidemment votre rôle d'archiviste de l'audiovisuel. Avec l'affaire Maznev, vous n'avez pas chômé. Il y a eu combien de vues pour votre vidéo d'apostrophe de Maznev chez Pivot à apostrophe?
Écoutez, il y a eu presque 8 millions de vues, tout réseau confondu, et je peux vous dire, c'est un excellent exemple de la façon dont aussi, c'est un autre aspect de Lina et qui à la fois nous éloigne et nous ramène à Madeleine, qui est d'être un acteur et même parfois un agitateur du débat public, parce que évidemment cette vidéo qu'on a sortie immédiatement, qui a été retrouvée grâce à nouveau à la pertinence que permet ces équipes de documentalistes toujours qui ont une connaissance hyper approfondie des fonds, et ben en la sortant les premiers, on a lancé le débat, on a contribué à ce débat, et c'est aussi un des autres rôles de Lina, ouais, que d'être toujours dans la mise en perspective et l'historicisation, ouais, de l'actualité. Voilà.
Et d'un mot, j'aimerais qu'on torde le cou à une fake news qui circule depuis très longtemps au sujet de Lina et au sujet d'apostrophe. Non, Lina n'a pas censuré le passage de Daniel Cohn-Bendit à apostrophe qui parle des petites filles, vous me l'assurez?
Oh bon, vous savez, nous, on censure rien parce que comme on archive ce qui est passé à l'antenne, voilà, on ne coupe jamais dans ce qui est passé à l'antenne. Voilà, il n'y a pas d'enfer à l'INA, je peux vous le dire.
D'accord.
J'aurais beaucoup aimé,
ouais.
Mais j'ai demandé, j'ai vérifié et il n'y en a pas.
Voilà. Merci beaucoup Laurent Vallée. Je rappelle que vous êtes le PDG de l'INA et Madeleine, la nouvelle plateforme vidéo de l'INA, M-A-D-E-L-E-N. J'ai bien compris que c'était à la Suédoise. Ça se lance demain, 2,99 par mois. Mais en ces temps de coronavirus, eh bien, c'est gratuit. Ça démarre demain à 18h. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Culture Média qui continue, on va recevoir Patrick Poivre d'Arvor pour son roman L'Ambitieux, c'est chez Grasset.